La classe de seconde NJPF.
Anaë.
Axel.
Emma.
Timéo.
La condamine en force.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission sur RPH Sud Radio Pays d'Hérault.
Nous sommes les élèves de seconde NJPF du lycée professionnel agricole La Condamine à Pézenas.
Et aujourd'hui, on prend le micro pour vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes, manger mieux.
Cette émission fait partie de notre projet podcast santé et développement durable avec le service jeunesse de la ville de Pézenas.
En partenariat avec le CISPD de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée.
Installez-vous, on démarre, place aux questions, aux échanges et à la discussion.
Donc du coup, c'est sur le thème de l'alimentation. Du coup, selon vous, quel impact a l'alimentation sur notre santé ?
Il est majeur l'impact. Il est essentiel de bien manger. Manger, c'est se guérir. C'est le premier médicament pour notre corps.
Un impact très important. Bien se nourrir, c'est rester en bonne santé. On n'en prend pas assez compte au quotidien, je pense. Mais en tout cas, pour moi qui suis adulte, c'est hyper important. Voilà.
Bien savoir manger et bien manger, ça a un impact en fait sur notre corps, le corps humain en général. En fait, si on mange mal, il y a des répercussions sur le poids par rapport au sucre, au trop salé. Ça génère des maladies par la suite.
Ça dépend si on le gère bien ou non.
Alors, un grand impact selon ce qu'on mange, ça peut avoir des répercussions plus tard importantes.
L'impact est énorme, j'en suis certaine.
Nous accueillons aujourd'hui Madame Kubel, chargée de projet en prévention et promotion de la santé. Elle est spécialisée en santé mentale à la Maison des adolescents de l'Hérault sur Béziers. Elle accompagne les adolescents sur plusieurs thèmes, comprendre l'adolescence, gérer ses émotions, utiliser les écrans de manière équilibrée et mieux vivre ses relations. Elle est aussi formée au secourisme en santé mentale. Elle est là pour nous donner des repères et nous aider à prendre soin de nous.
Une autre professionnelle vient nous apporter son regard. Il s'agit de Caroline Pesson, qui est diététicienne nutritionniste depuis près de 15 ans. Elle est intervenante dans les soins de ville, en établissement de soins et également formatrice Programme National Nutrition Santé. Elle a ajouté la coordination territoriale de santé en MSP et CPTS qui touche en transversal tous les champs de la politique de santé publique France, notamment la vaccination et l'obésité. Nous vous remercions pour votre présence. Est-ce que nous pouvons en savoir plus, notamment sur MSP et CPTS, s'il vous plaît ?
Bien sûr. Donc MSP, c'est Maison de Santé Pluriprofessionnelle, et CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. C'est la mise en place de l'exercice coordonné au sein d'un territoire ou d'une patientèle pour créer des conditions de travail qui soient plus efficientes pour le patient et plus confortables pour les professionnels de santé.
Très bien, merci.
Juste à préciser, donc moi j'interviens, il y a plusieurs professionnels au sein d'une maison des ados. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est la maison des adolescents ? À quoi ça sert ?
Non.
Donc c'est un lieu d'accueil et d'écoute des jeunes. On a trois publics, les jeunes, les parents d'ados, et ainsi que les professionnels qui travaillent à leur côté. Et en fait, sur la maison des ados, on reçoit gratuitement et de façon même anonyme, s'ils le souhaitent, les jeunes de 11 à 21 ans, afin qu'ils puissent bénéficier d'une écoute, voire d'un accompagnement, pour quelques difficultés que ce soit, notamment à propos de la santé mentale, c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure. Exactement pareil pour les parents. On a des équipes avec des éducateurs spécialisés, infirmières et psychologues, voilà, qui peuvent recevoir parents et jeunes en individuel pour toute difficulté. Et moi, je ne reçois pas les jeunes de façon individuelle, mais j'interviens pour promouvoir la santé auprès des adolescents, plutôt en groupe et à l'extérieur de la maison des ados.
Comment lutter contre le diabète chez les jeunes ?
Le diabète, il arrive par le sucre, par une mauvaise alimentation de tout ce qui est produit transformé. On va pas donner de marque, mais tous les biscuits, les barres chocolatées que vous allez trouver dans les grandes surfaces, qui sont transformées avec des gras et du sucre transformé, peut provoquer plus tard le diabète, plus un manque d'exercice physique.
Moins de sucre, moins d'aliments transformés, moins de malbouffe. Que ça fasse partie aussi de l'éducation, qu'on apprenne aux jeunes à se nourrir pour qu'ils puissent éviter justement tous les pièges, tout le sucre caché dans les aliments qu'on ne soupçonne pas en fait.
La cause de diabète est essentiellement dans le sucre, dans tout ce qui est en fait soda, chips et diverses alimentations, c'est-à-dire l'alimentation transformée, non créée, donc où on retrouve essentiellement énormément de sucre et de sel.
Pour vous, comment on peut lutter contre le diabète chez les jeunes ?
Beaucoup d'informations, parce que ce n'est pas toujours le cas. Voilà, plus d'informations sur les conséquences aussi de tout ce qu'il peut y avoir.
Arrêter les sodas dès le plus jeune âge, en fait. Même les tout petits, pour moi, hein. Le sucre, en fait.
Si déjà les industries se mettaient à faire des choses moins sucrées, moins salées, et avec tout ce que les jeunes mangent de transformé, si la bouffe transformée avait été moins sucrée, moins salée, il y aurait déjà beaucoup moins de gens qui ont du diabète ou des problèmes avec la santé et l'alimentation.
Et pour conclure la présentation, nous avons également sur le plateau Chanel Million. Notre infirmière au lycée nous accompagne au quotidien, que ce soit pour des soucis de santé, des blessures, de la fatigue, du stress ou des questions personnelles. Elle nous aide aussi sur tout ce qui touche au bien-être, sommeil, alimentation, gestion des émotions, prévention des risques. Elle peut nous orienter vers des professionnels ou des structures adaptées si besoin. Son rôle de nous écouter, nous conseiller, nous soutenir et de veiller à notre santé, celle de tous les élèves tout au long de l'année. Merci pour votre présence.
Et maintenant, nous allons aborder le sujet de l'alimentation avec nos invités. Qu'est-ce que vous mettez en place pour prévenir le diabète chez les jeunes ?
Le diabète apparaît chez les jeunes comme une complication de l'obésité, qui est donc une première maladie. Et sur le territoire, il y a plusieurs endroits où, depuis assez peu de temps, depuis 2 ou 3 ans, les consultations de nutrition sont remboursées par la Sécurité sociale pour ceux qui fonctionnent en exercice coordonné, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc voilà, il y a une mise en place d'un conventionnement avec la Sécurité sociale pour que les consultations diététiques soient gratuites. Des enfants de 3 à 12 ans. Il est vrai que beaucoup de demandes concernent les enfants qui sont au collège plutôt. Donc le dispositif ne permet pas toujours de les prendre en charge. C'est un peu dommage, mais on espère que la Sécurité sociale va changer cette tranche d'âge par rapport aux évaluations des premières années.
Merci.
Et il y a d'autres dispositifs sur l'Hérault qui prend en charge l'obésité infantile, comme Croque Santé à Béziers.
Quel regard portez-vous sur les fast-foods et sur l'effet potentiel de la santé publique ?
En tant que diététicienne, un regard problématique, disons. Hein. Voilà, hein, moi j'essaie de lutter contre la mauvaise alimentation ou l'alimentation mal équilibrée. Donc les fast-foods, malheureusement, en termes d'additifs notamment et de composition des aliments, est problématique.
Est-ce qu'il est important de bien manger au petit déjeuner ?
Alors, pour le petit déjeuner, ce qui est recommandé actuellement, c'est surtout de manger quand on a faim. Bien souvent, on mange parce que c'est l'heure ou parce que les aliments sont à disposition. Donc, manger quand on a faim. Et à ce moment-là, oui, c'est important de manger des glucides complexes, notamment. On peut rajouter un fruit et un laitage, c'est encore mieux.
Mais est-ce que le petit déjeuner, c'est pas justement le repas le plus important pour mettre du carburant dans la machine ?
Tout à fait, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait des glucides complexes pour alimenter le cerveau et être bien nos aguets de tout ce qui se passe autour de nous, pouvoir travailler convenablement. Tout à fait, il faut qu'il soit équilibré, mais de manger au bon moment quand on a faim, il n'y a pas le même mécanisme au niveau de la digestion et du métabolisme. Souvent, en fait, on n'a pas faim le matin parce que le repas du soir était important ou difficile à digérer. On n'a pas fini quand on se lève. Et donc, si on mange, on engorge un peu la machine. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle stocke. Donc, attendre, c'est pour ça, attendre d'avoir faim. Et apprendre aux enfants à reconnaître la vraie faim.
Et en termes de glucides complexes, est-ce que ça parle aux jeunes autour de cette table ? Donnez-moi un exemple de glucides complexes, s'il vous plaît.
Alors, mon exemple préféré, parce que ce sera le petit déjeuner le plus équilibré, c'est du pain complet. Voilà, du pain parce que ça rassasie, parce qu'il y a peu d'additifs ou pas dans certains pains. Et puis, on a les fibres des céréales qui apportent beaucoup pour le microbiote, pour la digestion. Et les vitamines également. Voilà, ce qu'on n'aura pas dans une alimentation industrielle avec de la farine blanche qui se comporte comme du sucre rapide, en plus de ne pas avoir de ne pas contenir de vitamines.
Pourquoi faut-il avoir une alimentation saine et variée ?
Ça reprend un peu ta première question. L'alimentation saine et variée, c'est ton premier médicament. Si vous mangez sainement et varié, donc avec le plus de couleurs possible, plus vous avez de couleurs dans votre assiette, et plus votre alimentation est différente et variée. Et donc c'est le premier médicament pour votre corps.
Eh bien, pour rester en bonne santé, justement, et puis parce qu'il y a tellement de choses à découvrir quand on se nourrit, avec des choses saines, variées, en fonction des saisons, des fruits, des légumes. On a de la chance en France, justement, d'avoir un patrimoine alimentaire qui est hyper riche, donc ça peut aider.
Mais pour pouvoir, en fait, se garantir de pouvoir bien vieillir dans le temps et ne pas, en fait, générer trop de maladies.
Varié parce qu'en fait, c'est le carburant de notre corps. Hein. Faut pas rêver. Hein. Il a besoin de toutes les vitamines, toutes les fibres, tous les sels minéraux que l'alimentation nous donne. Donc, il faut manger varié.
Selon vous, comment bien manger au petit déjeuner pour ne pas avoir de crise d'hypoglycémie dans la matinée ?
Le petit déjeuner, ça dépend de chacun. Il y en a qui aiment le salé, d'autres le sucré. Il y en a qui déjeunent pas, mais qui font pas forcément d'hypoglycémie non plus. Je pense que c'est assez personnel, mais éviter aussi les trucs trop sucrés, parce que quand on se nourrit avec des céréales, des machins comme ça, des jus de fruits le matin, on sait que 2 heures après on a faim et que ça peut faire un pic, justement. Voilà.
Alors il faut qu'il soit assez complet, qu'il y ait notamment des sucres lents. Une boisson chaude, c'est toujours sympa. Pas trop pro jus de fruits, parce que c'est énormément de sucre, que du sucre. Voilà, une source de glucides lents, enfin, voilà.
Alors moi, quand j'étais petite, on nous disait qu'il fallait manger ou un verre de lait ou un yaourt, un fruit et du pain ou un biscuit. On amenait et les fibres et le calcium, et avec les fruits, en principe, on amène les vitamines.
Est-ce que l'alimentation industrielle peut avoir des impacts sur la santé ?
Et oui, tout à fait. Il y a plusieurs nutriments ou additifs qui peuvent poser souci dans l'alimentation industrielle. Donc déjà, c'est très salé. Il y a beaucoup d'additifs, hein, ça je le répète, mais c'est vrai qu'on est en train de se rendre compte qu'on les multiplie. Donc si vous en mangez 2 dans cet aliment et puis que d'autres aliments en contiennent 2 ou 3, on arrive plus vite à un cocktail dont on ne connaît pas les effets. Et on est en train de se rendre compte qu'il y a des effets notamment sur les enfants. Hein, le dioxyde de titane est une nanoparticule, donc elle a la propriété de passer à travers les tissus. Et elle est présente dans presque tous les bonbons. Et il y a des études qui montrent qu'il y a potentiellement un lien avec l'apparition des troubles du neurodéveloppement. Et les pesticides, alors si on parle de pesticides, alors je vais vous faire peur, hein, puisque on sait hein, que les pesticides sont responsables des troubles hormonaux, notamment chez les enfants, avec l'apparition de règles très précoces chez les filles, et puis des problèmes de fertilité chez les jeunes adultes. Donc voilà. On peut aussi parler du plastique, qui est présent essentiellement dans l'air. Et voilà, et je remercie beaucoup la ville de Pézenas de mettre en place des ateliers sur le développement durable, sur l'alimentation, au plus près des élèves, grâce à Agnès Allard. Voilà, ça c'est...
je prends au rebond l'interpellation. Et oui, c'est vrai qu'on met en place dès le plus jeune âge, hein, en maternelle, des ateliers pour faire de la cuisine avec les parents, avec les enfants, pour que justement les enfants puissent voir les aliments crus, qu'on puisse les toucher, qu'on puisse les sentir, et qu'ils puissent les manipuler, les éplucher et préparer ensemble des petits déjeuners sains, des petits casse-croûtes rapides et bons pour la santé, et bons aussi au goût. C'est important que dès le plus jeune âge, les enfants puissent découvrir ça.
Et ce sont ces actions-là qui aident les professionnels de santé dans la prévention de la nutrition et du bien manger, du bien se comporter en tant que citoyen, ouais, aussi, la gestion des déchets. Donc voilà, ça nous aide dans le cadre de la mission Retrouve ton cap, donc de la lutte contre l'obésité infantile. Les ateliers comme ça, pratiques, prennent beaucoup de temps. Nous n'avons pas vraiment le temps de tout organiser en tant que professionnels de santé. Hein. On sait qu'on est en sous-nombre. Ouais. Donc voilà, les ateliers d'Agnès sont pour nous une grande aide.
Merci. Mais on fait aussi, tous les animateurs de la ville, on accompagne les enfants à la cantine le midi. Et c'est important pour nous d'expliquer aux enfants ce qu'ils mangent, d'où ça vient, comment c'est cuisiné, les épices qui sont rajoutées, la provenance des aliments. Les enfants, ils sont très sensibles à ça.
To waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. Living dangerously.
Vous nourrissez-vous par vous-même? Avez-vous un potager? Faites-vous de la chasse ou de la pêche? Si oui, vous nourrissez-vous de ce que vous pêchez ou vous chassez?
Alors non, je ne me nourris pas par moi-même parce que je n'ai pas le temps. Si j'avais le temps, je le ferais, mais je ne peux pas, j'ai pas le temps. Mais j'achète que des produits frais et je cuisine tout entièrement moi-même, car c'est mon métier, la cuisine.
Alors non, j'en serais bien incapable. En plus, je ne suis pas spécialement attirée par la chasse. Mais oui, on a un potager à la maison, mais c'est compliqué de nourrir. On est une famille, on est un peu nombreux, donc on se nourrit pas de notre potager. En revanche, je cuisine, je fais les courses et puis je privilégie les circuits courts, voilà, les producteurs ou le marché, ce genre de circuits de distribution.
Alors j'ai une campagne de 7 hectares, donc j'ai de quoi faire du potager, j'ai des animaux, mais je m'en nourris pas.
Pas du tout.
Non, j'ai pas de potager, mais j'achète toujours mes légumes sur le marché de Pézenas le samedi. Et je fais attention à prendre des maraîchers qui sont autour de Pézenas, dans la limite du possible. Je vais rarement acheter des légumes en supermarché, très très rarement.
Avez-vous déjà eu des cas d'hypoglycémie et avez-vous su les gérer ?
À l'infirmerie, j'en ai déjà eu. Donc, il y a deux cas d'hypoglycémie. Donc, ça va être en premier cas chez des personnes qui seront diabétiques, par exemple, donc qui auront cette maladie. Donc là, c'est une surveillance de leur taux de sucre, un contrôle, savoir où ils en sont. Après, ce que j'ai su les gérer, j'ai fait au mieux avec mes compétences. Mais les élèves sont toujours ressortis vivants de l'infirmerie. Et ensuite, il y a le cas où, pour en revenir à cette histoire notamment de petit déjeuner, où l'élève n'a pas faim le matin en se levant, il ne déjeune pas, il part au lycée. Et là, ben, c'est la sensation de mal-être parce qu'il manque ce carburant. Et donc, physiquement et mentalement, pour pouvoir suivre les cours, c'est plus compliqué quand on est à plat, sans énergie. Donc oui, régulièrement, il y a des élèves qui viennent pour... me dire j'ai faim, j'ai pas mangé ce matin, donc là on voit comment faire pour ok je me lève, je n'ai pas faim, donc je ne mange pas, mais je peux tout à fait prendre voilà des tartines ou quelque chose dans une boîte et on a suffisamment de pauses au lycée pour pouvoir croquer et prendre cette énergie dont on a besoin, surtout les élèves, pour suivre la classe.
Avez-vous beaucoup de personnes qui viennent pour vous voir parce qu'elles ont des carences alimentaires?
Non, j'ai quelques élèves qui viennent me voir, mais moi, en tant qu'infirmière scolaire, je vais plutôt leur conseiller d'aller faire un bilan avec leur médecin et ensuite de voir, de faire le point sur leurs carences ou avec des nutritionnistes ou diététiciens et pour pouvoir trouver une solution pour compenser, pour arriver à effacer ces carences et ingurgiter tout ce qu'il nous faut pour être en bonne santé.
Quel conseil donnez-vous pour rester en bonne santé ?
Alors, avoir une alimentation équilibrée, donc ça passe quelquefois par une rééducation alimentaire, mais pas forcément. Avoir de l'activité physique, bien dormir.
Sortir en pleine nature.
Sortir en pleine nature, aller dehors, respirer dehors, c'est très important pour la vision aussi.
Ouais,
hein, le fait d'avoir une vision de loin fait du bien au cerveau. Décrocher de l'écran. Et puis, signaler tout problème de santé à son infirmière scolaire ou à la maison des adolescents s'il y a des soucis de mal-être. Signaler, voilà, aux bons endroits pour trouver une écoute et une aide professionnelle.
Quels sont les trois principaux conseils d'une alimentation équilibrée ?
Alors, manger plus de fibres. Tu veux répondre, Agnès ?
Plus de fibres, oui, et ben, moins de sucre transformé, plus de produits naturels, c'est-à-dire une alimentation qui ne soit pas industrielle. Manger des vrais fruits, des vrais légumes, du cru.
Du bio pour éviter voilà, les pesticides. Et puis une alimentation qui contient tous les groupes d'aliments, donc des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines, des minéraux et des fibres, ce que nous avons... nous ne mangeons pas assez encore.
Et boire de l'eau.
Et boire de l'eau, boire suffisamment d'eau, ouais. S'hydrater, avoir une activité physique aussi, c'est lié intimement à l'alimentation.
Ouais. Ça fait plus de 3, Agnès. Hein. Il y en
ouais,
a
ça
plein.
Ça fait plus de 3, mais en fait, ouais, il y a beaucoup de conseils à donner.
Et tu as tout à fait raison.
Et pour revenir sur l'eau, d'ailleurs, je vais souvent à la cantine. Bon, surtout l'été, on a de l'eau qui est mise au réfrigérateur. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses en tant que nutritionniste. Moi,
j'aurais tendance à demander si les enfants ont la clim dans les classes.
Non.
Alors, c'est bien qu'elles soient au frais, ouais. Quand on boit de l'eau, en 10 minutes, ça va passer la barrière de l'estomac. Donc, pour la température, c'est vraiment très rapidement à 37 degrés. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. La conséquence d'une eau très fraîche, c'est qu'elle peut induire un réflexe gastrocolique et accélérer le transit intestinal. On l'utilise, par exemple, dans des cas de constipation. Okay. Le matin, à jeun, on prend un grand verre d'eau bien glacée et des fois, ça aide.
Pensez-vous que les habitudes alimentaires soient les mêmes à 20 ans qu'à 60 ans ?
Alors, on n'a pas le même mode de vie à 20 ans qu'à 60, on n'a pas les mêmes goûts non plus. Et puis, on n'a pas la même appétence, la même attirance pour les aliments. Notamment les protéines. Quand on prend de l'âge, on a tendance à ne pas manger assez de protéines parce que ça ne nous fait pas envie. Et c'est comme ça qu'on arrive à des carences. Allez, les besoins sont identiques chez l'adulte et la personne âgée. Les besoins peuvent être augmentés en cas de maladie, mais après ils sont identiques. Ce qui amène une carence en protéines, c'est que les personnes âgées ont peu d'appétence pour les protéines, que ce soit viande, poisson ou œuf.
Il y a peut-être aussi, chez les personnes âgées, plus d'expérience culinaire. Je dirais, elles savent cuisiner, peut-être qu'elles ont une autre relation à l'alimentation, et du coup, peut-être ont des repas plus riches, parce qu'elles ont des recettes de cuisine et qu'elles aiment cuisiner, peut-être aussi, par rapport aux jeunes.
Les personnes âgées ont une alimentation bien moins transformée, tout à fait, que la population active, hein, parce qu'on a de moins en moins de temps pour cuisiner, préparer les repas et faire les courses. Donc, oui, tout à fait.
Que pensez-vous des produits ultra transformés tels que les bonbons et les additifs ?
Je suis contre, à 100%. Voilà. Ça devrait être interdit, ça devrait même pas exister. Voilà, c'est tout.
Bon, ne touchez pas aux bonbons, hein, attention.
Alors ça forcément c'est pas bon pour la santé parce que vu que c'est très transformé, notre système n'est pas forcément apte à tous les traiter comme il faut et ça peut aussi causer des soucis et puis c'est pas très naturel.
J'aime pas et j'en prends pas.
J'en mange pas.
Que pensez-vous des fast-food ?
Je ne répondrai pas à cette question.
Alors les fast-food, je suis pas pour non plus. Maintenant, ça fait partie de la culture mondiale, quoi. Donc de temps en temps, parce que voilà, ça peut faire plaisir, mais que ce soit quotidien, habituel, et qu'en plus on incite les gamins à aller faire des anniversaires au fast-food, non, ça me, je suis contre aussi, voilà.
C'est pratique. Et on est content parfois que ça existe, tout simplement.
Les fast-foods, ça va bien une fois par mois, mais bon, si c'est tous les jours, on en revient toujours au même. Le corps humain, il l'accepte pas.
De temps en temps.
J'aime pas non plus, j'y vais jamais.
Dans la conception d'un burger, en fait, tout est bon. Mais c'est le fait que tout soit transformé et tout industrialisé, le fait que c'est pas bon, voilà. Quand je veux un burger, je vais chez le boulanger. Je lui demande qu'il me fasse des pains burgers, j'achète ma viande, j'achète mon fromage chez le fromager et je me fais un burger maison et je vous assure que c'est 10 fois meilleur que n'importe quel burger que vous irez manger dans un McDo.
Quel problème rencontrent généralement les personnes qui viennent vous voir ?
Alors majoritairement, j'ai des demandes de perte de poids. Chez des personnes qui ont des difficultés, justement des résistances à la perte de poids, donc où c'est vraiment pas facile. Et c'est là où c'est important de garder une alimentation équilibrée et être pris en charge, suivi pour faciliter ce changement d'habitude qui est très compliqué au quotidien, hein, de changer son alimentation. Donc voilà, et puis on gère aussi l'alimentation émotionnelle. Très souvent dans ces cas-là. puisque y a un gros sentiment de culpabilité chez les personnes qui arrivent mal à gérer leurs apports alimentaires. Alors moi, j'essaie de leur expliquer, je leur explique d'emblée que la première chose, comme tout mammifère, quand il vient au monde, première chose qui nous réconforte, c'est la nourriture. Et en plus, faut l'espérer, dans la majorité des cas, il y a un câlin en même temps. Et donc ça, après, c'est inné. J'ai besoin de réconfort, je vais vers la nourriture. Donc il ne faut absolument pas culpabiliser. Il faut juste apprendre à gérer, adapter son comportement pour qu'il corresponde à ce qu'on veut vraiment appliquer, le chemin qu'on veut suivre. La perte de poids. Hein. Alors, quand il y a un problème de troubles hormonaux, j'envoie directement voir les médecins qui sont proches de chez moi ou bien un spécialiste. Hein, ils sont maintenant assez accessibles via des plateformes comme OmniDoc. Donc là, j'oriente les patients ou je demande conseil. Voilà, c'est quand ça touche au niveau hormonal, là, c'est un médecin qui doit étudier le cas. Voilà, c'est pas à moi de le faire. J'ai pas le droit.
Alors moi, l'infirmerie, concernant l'alimentation, hein, bien sûr, on vient me voir en général pour... ce sont des élèves qui sont demandeurs de perdre du poids. Et j'ai remarqué que c'était souvent par rapport au regard des autres. À cet âge-là, c'est vraiment important. Et donc, la différence fait que parfois, des élèves ont envie de changer de silhouette par rapport à ce regard principalement. Donc on en parle et ensuite moi ce sera plutôt un rôle d'orientation et parfois malheureusement il y a des troubles alimentaires qui viennent s'installer parce que les élèves ne sont pas accompagnés, ne savent pas comment faire et donc parfois il y a les troubles alimentaires qui s'installent et là pareil pour moi ce sera de l'orientation et j'indique des professionnels auprès de qui les élèves pourront trouver des conseils et une prise en charge adaptée à leur cas. Voilà.
Oui, le rapport à l'image de soi peut être compliqué à l'adolescence où c'est justement une période d'évolution corporelle aussi. Et effectivement, l'impact des réseaux sociaux et des images qui peuvent être à un moment donné modifiées par l'IA, mais pas que, parce que c'est très vieux ces histoires de modifier même des images de mannequins qui sont déjà bien faites et bien pour allonger les jambes, pour affiner la taille. Et effectivement, les jeunes qui ont tendance à se référer à ces images sur les réseaux sociaux peuvent complexer de leur physique. Alors qu'en fait, vous êtes en plein développement, les ados, et chacun se développe de façon différente. Et il faut avoir un regard critique par rapport à tout ce qui est marketing et proposé sur justement ces réseaux sociaux.
Nya 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 n pensez-vous de tous les fruits et légumes importés d'autres pays? Pensez-vous que cela a un impact sur notre santé?
Alors, manger de saison, c'est important. Les produits importés nous permettent aussi d'avoir une diversité plus grande pour les vitamines et toutes ces choses-là. On ne peut pas se contenter de manger uniquement les fruits et légumes que nous avons chez nous à une certaine période. Il nous faut aussi manger d'autres fruits, comme les fruits exotiques que nous avons en période de Noël, en hiver, comme l'ananas, les mangues, qui nous amènent des vitamines différentes qui sont bien pour notre corps.
Alors, peut-être pas sur la santé directement, sur la planète, c'est sûr, d'importer des pommes d'Argentine ou des fruits d'Argentine ou des fraises du Chili, je trouve ça aberrant. Après, il y a des fruits qu'on ne trouve pas chez nous, donc effectivement, les bananes, ce genre de trucs, on pourrait s'en passer. Hein. On a quand même beaucoup de choses en France. Privilégier le bio, voilà, au moins les pesticides en moins, ça c'est déjà quelque chose hyper important.
Alors ça dépend le pays, parce que beaucoup de pays n'ont pas les mêmes normes de pesticides, etc. Donc ça dépend le pays, parce que du coup il y a plus de risques qu'il y ait plus de pesticides, etc.
Que pensez-vous de l'inflation sur l'alimentation? A-t-elle un impact sur notre alimentation ou pas?
Oui, le coût des fruits et légumes. Alors, effectivement, ça c'est un problème, mais on peut aussi en acheter moins et en acheter de mieux. Il y a des circuits de distribution qui ne sont pas forcément plus chers. On pense que les fruits en grande surface sont moins chers, mais ce n'est pas toujours le cas. Les marchés ou les producteurs ne sont pas plus chers du tout, et au moins ils sont rémunérés à un juste prix.
Oui, ça peut jouer, mais en fait, si on transforme l'alimentation, c'est-à-dire si on la transforme soi-même, ça a un moindre coût et on mange mieux. Donc, il vaut mieux acheter des fruits et des légumes et les transformer soi-même.
Oui, parce que plus c'est cher et moins on en mange, j'ai l'impression.
Bah, malheureusement, aujourd'hui, les industriels, ils arrivent à faire des plats moins chers que si vous le faites vous-même. Donc, c'est ça le souci, en fait. On se mord la queue un peu. Parce que du coup, on achète moins cher des produits qui sont déjà tout faits, mais qui sont mauvais pour notre santé. Et on ne peut pas acheter des légumes qui sont très chers pour faire des poêlées de légumes fraîches. Et vous voyez, c'est un peu... on tourne en rond, en fait.
Pensez-vous que l'alimentation bio est meilleure que l'alimentation industrielle, et pourquoi?
Oui, tout à fait. Le bio est meilleur pour la santé parce qu'il y a moins de traitements ou pas du tout de traitements pesticides. Sur les animaux, il y a aussi moins de traitements antibiotiques, et puis ils sont élevés dehors, donc il y a l'avantage aussi de l'alimentation bien-être des animaux, hein, de manger quelque chose qui nous satisfait au niveau mental aussi, pour le respect de l'être humain et de la nature. Donc, ça aussi c'est important, d'avoir une alimentation qui nous fait du bien et du coup qui nous fait plaisir parce que ça nous fait du bien. Il y a aussi ce plaisir-là qui est associé pour moi à l'alimentation bio.
C'est ça, puis au-delà de l'alimentation bio, c'est aussi tout le processus de fabrication. Et manger un aliment qu'on peut toucher plutôt que d'avoir à ouvrir une barquette en plastique... je pense que l'impact est déjà plus intéressant. Et encore au-delà, tout l'aspect environnemental de la fabrication de ces produits transformés, de l'agroalimentaire. C'est beaucoup de plastique, c'est beaucoup de transport, c'est beaucoup d'énergie pour produire ces aliments. Tandis qu'une alimentation biologique, à partir d'une agriculture biologique, voilà, on a des produits directement... local, directement dans l'assiette, sans transformation, sans emballage. Et puis ça nécessite du coup moins de travail après de toute la collectivité. Il n'y a pas besoin d'aller collecter les déchets, de ramasser les poubelles, etc. C'est déjà plus simple.
Bon, merci à tous les intervenants d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, je ferai attention à mon alimentation. Et c'était super cool. Voilà.
Merci.
C'était la seconde NJPF du lycée La Condamine à Pézenas, au micro de RPH Sud Radio Pays d'Hérault.
Cette émission a été réalisée dans le cadre de notre projet podcast Santé et Développement Durable avec le service Jeunesse de la ville de Pézenas.
En partenariat avec le CISPD de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée.
Un grand merci à nos invités pour leur disponibilité et aux intervenants qui nous accompagnent dans ce projet.
Et merci beaucoup à vous aussi.
Merci à vous.
De rien. Merci. Au revoir.
La classe de seconde NJPF.
Anaë.
Axel.
Emma.
Timéo.
La condamine en force.